Voilà, aujourd'hui, on va faire une grande promenade dans un quartier de Paris magnifique, très connu, célèbre. Et on va le découvrir au travers de personnalités de la chanson notamment. Je suis avec Anne-Sophie Guerrier. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Donc, l'idée vous est venue un jour. Alors, peut-être vous pourrez nous raconter à quelle occasion vous avez imaginé ce projet de visite de Montmartre sous ses différents quartiers, sous l'angle de la chanson.
Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis chanteuse. Et en fait, je chantais dans le métro. Je faisais partie des musiciens du métro. Et pendant la pandémie, il est devenu impossible de chanter dans le métro. Pendant un an et demi, on ne pouvait plus chanter. Je ne pouvais plus faire mon activité. Donc je me suis dit, le seul moyen pour moi de continuer de chanter, c'est de chanter dans la rue. Parce que tous les bars, les restaurants sont fermés. Donc j'ai commencé à chanter a cappella dans la rue, enchaîner les morceaux. J'avais l'autorisation de la préfecture de police. Mais c'était fatigant, vraiment, sans musique. Et donc j'ai eu l'idée d'alterner avec des anecdotes. Et au fil des recherches, un parcours a commencé à se dessiner avec les endroits où ont vécu un tel, Edith Piaf, Dalida, Charles Aznavour, des petites ruelles sympas et mon Montmartre en chanson s'est créé parce que j'habitais Montmartre aussi, donc évidemment ça a facilité la création du circuit.
Voilà, donc c'est vrai que ce parcours, il est assez grand, long, il dure 2 heures, il y a beaucoup d'anecdotes et on croise des gens célèbres dont on a gardé la mémoire au moins dans l'oreille. Hein.
Oui, bien sûr. Alors en fait, il y a certains chanteurs dont je parle et les personnes n'ont pas en tête. Mais dès qu'ils entendent la chanson, ah bah oui, on connaît. Donc la chanson reste encore plus que le nom de l'artiste. C'est ça qui est assez incroyable avec la chanson en fait. Et le parcours, il est long en fait. C'est surtout que j'ai voulu qu'il soit dynamique. Donc j'ai voulu m'arrêter à beaucoup d'endroits, plusieurs endroits en tout cas, et qu'on ne reste pas trop longtemps dans un endroit, on n'a pas le temps de... Voilà, que les choses s'enchaînent assez vite entre anecdotes, chansons, et puis découvertes du lieu, des rues. Alors bonjour à tous, bienvenue à cette visite de Montmartre en chanson. Nous allons revenir sur les pas de célèbres chanteurs qui ont marqué l'histoire de la chanson française et qui ont vécu à Montmartre. Et nous allons commencer par le mur des Je t'aime, qu'on va se trouver une place à côté du mur des Je t'aime. Dans des songs, comme d'habitude, that's gonna become my way.
Oh.
My way, okay, like that, you know. Alors, Claude François va vivre ici en 1962 avec sa femme Jeannette, au deuxième étage, dans un deux pièces un peu triste. Il n'y a pas de salle de bain. Ah. En plus, les toilettes sont sur le palier de l'étage du dessous. Et quelques semaines plus tard, il y a la mère de Claude qui va venir vivre avec eux. Ruinée après ses excès au casino. De son côté, Jeannette danse à l'Olympia. Et elle fait la rencontre de Gilbert Bécaud. Elle se laisse séduire par Gilbert Bécaud. En plus, elle ne supporte plus les excès de jalousie de Claude, de vivre avec sa mère. Et elle quitte Claude François, qui deviendra quelques semaines plus tard la nouvelle idole des jeunes, avec son premier tube. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme je disais à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Voilà pour Clo-Clo. Merci.
Alors, il y a aussi des étrangers qui se joignent à votre groupe. Et donc là, bien, ils parlent en anglais ou voilà. Comment ça se passe, l'échange?
Alors, en fait, quand il y a des personnes anglaises qui rejoignent le tour en français, je peux donner quelques mots en anglais, mais j'ai la traduction entière qui a été faite sur un carnet et que je donne. Donc, la traduction en anglais, en allemand et en espagnol. peut-être plus tard d'autres langues vont s'ajouter. Et du coup, ça permet aux personnes de suivre entièrement la visite avec la traduction. Et s'ils ont un problème, évidemment, ou des questions, ils peuvent me poser en anglais, en espagnol, mais pas en allemand parce que je ne parle pas allemand, donc ça va être compliqué. Et puis sinon, je fais aussi des visites entièrement en anglais. Donc là, c'est des créneaux ouverts en anglais ou alors des visites privées. Les gens réservent telle date, telle heure, uniquement pour eux. Et donc, dans ce cas-là, je la fais en anglais. Et je peux aussi faire des visites privées en français avec des associations, des comités d'entreprise, des associations de retraités, des anniversaires. Voilà, c'est toute la semaine, même les matins, des week-ends. On peut privatiser des créneaux. C'est mon activité principale. Alors nous sommes devant le Grand Hôtel de Clermont, où est venu vivre en 1929, à l'âge de 14 ans, Édith Piaf. Donc Édith Piaf, elle prend son indépendance à l'âge de 14 ans, et elle va louer une chambre ici avec son amie Simone Berthaud. Et c'est à cette époque qu'elle se lance en tant que chanteuse de rue à Montmartre et à Belleville. Et donc, on peut l'imaginer dans la rue, chantant.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique.
Et donc, Édith Piaf va revenir dans cet hôtel en 1948 avec son grand amour, Marcel Cerdan, qui s'entraîne alors dans une des salles de boxe du quartier. La salle de boxe était juste derrière cette grille verte. Vous voyez ? Donc elle était détruite depuis. Hein. Et dans ce bar, venait très souvent Édith Piaf chanter aussi. Et vous avez des photos à l'intérieur de Marcel Cerdan qui pose devant la devanture. Donc n'hésitez pas à venir y boire un verre. Ça ouvre à 17h. Lève le rideau et c'est l'entrée du bar. C'est vraiment un lieu typiquement montmartrois.
Alors, à entendre tous ces noms qui évoquent une partie de l'histoire, l'histoire musicale de Montmartre, on se dit que vraiment, il y a comme un nid ici, un nid d'artistes.
Alors, Montmartre a inspiré énormément d'artistes. D'abord, c'était les peintres qui venaient ici plutôt pour le caractère champêtre du quartier, les moulins, les vignes, les champs, ça les inspirait dans leur peinture. Et aussi, c'était très peu cher. Donc, c'était à l'extérieur de Paris. Donc, il y avait une taxe dans Paris pour le vin. Donc, tous les bistrots qui se sont créés ici, c'est parce qu'il y avait c'était moins cher. Donc, beaucoup d'artistes sont venus ici pour s'inspirer et c'est devenu un endroit pour les artistes. Donc, ensuite, les chanteurs. Et puis, aujourd'hui, on continue d'y aller pour son passé artistique. On veut s'inspirer de cette bohème, de tous ces chanteurs qui sont passés avant, tous ces cabarets qui étaient dans le quartier.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ce lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de lit ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la
Alors cette bohème, bien sûr, Aznavour, mais bien d'autres ont fait leur début ici.
Donc dans les cabarets de Montmartre, il y avait beaucoup de cabarets, hein, et donc beaucoup de chanteurs, et des cabarets de Pigalle aussi. Hein. qui ont commencé dans ces cabarets. Donc on a Charles Aznavour, évidemment, Jacques Brel, Georges Brassens, Hugo Frey, Claude Nougaro, qui d'autres Bobby Lapointe, Jacques Higelin, Pierre Ferré, voilà, c'est Anne Sylvestre, c'est juste considérable, hein, le nombre, Juliette Gréco, Serge Gainsbourg, c'est dans les cabarets de Montmartre, de Pigalle, et puis aussi les caves à Saint-Germain-des-Prés.
Peut-être qu'on pourrait faire un focus particulier sur Édith Piaf, par exemple, parce que elle semble avoir beaucoup marqué et elle a traversé des périodes difficiles qui ont peut-être nourri aussi son art, ses chansons, en thématique tout au moins. Et donc, elle est arrivée ici, vous le dites, dans votre parcours à 14 ans.
Alors oui, Édith Piaf, qui est une personne qui m'a énormément inspirée, donc j'en parle énormément dans la visite. Et on commence dès le début par, presque dans les premières anecdotes, une anecdote sur les débuts d'Édith Piaf dans la rue. Seule, à 14 ans, elle commence à chanter à Montmartre et à Belleville, avec Simone Berthaud, qui était sa meilleure amie. Et elle s'occupait de ramasser la monnaie.
Voilà, et puis plein de personnages célèbres. Certains ont acheté des appartements, des maisons ici.
Oui, alors nous avons la maison de Dalida, évidemment, hein, qui est une empreinte très particulière à Montmartre. Les Montmartrois l'aimaient énormément et elle reste dans le cœur des Montmartrois très présente. Il y a Nougaro aussi qui avait sa maison ici. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'artistes et de personnalités qui vivent, notamment avenue Junot, qui est vraiment la grande artère à Montmartre, où on peut croiser souvent des personnalités. Hein.
Voilà, donc cette visite-là, elle dure 2 heures. Les groupes, on va dire, l'idéal, c'est 15-20 personnes.
Les groupes, oui, c'est 10, 15, 20, 25. On est vraiment dans les maximums pour les visites publiques. Ensuite, en visite privée, ça dépend. Ça peut être des petits groupes parce que voilà, ils veulent faire une visite uniquement pour leur petit groupe. Ou alors justement, c'est une association avec un très gros groupe, 50 personnes. Et donc voilà, je fais la visite, je m'adapte en fonction vraiment des demandes.
Donc ce cœur de Montmartre est magnifique, bien sûr. Hein, il est en bel état, à la fois pour faire des photos, pour aussi apprécier de ses yeux propres. Et puis il y a ce quartier aussi des vignes qu'on a traversé où on récolte de la vigne, enfin du raisin, on fait du vin aussi.
Oui, on a toujours des vignes à Montmartre. Montmartre était un endroit où il y avait beaucoup de vignes, donc c'est plutôt sur l'autre flanc hein, de la butte, le flanc sud. Et aujourd'hui, elles sont au nord. C'était un terrain qui était à l'abandon et ils ont eu l'idée d'y planter des vignes avec du coup la République de Montmartre, la Commune libre de Montmartre, aussi avec le Vieux Montmartre, toutes ces associations qui vont préserver l'identité de Montmartre, l'âme de Montmartre, le côté village, qui est aussi un aspect très important dans ma visite, qui est le côté convivial. On va ressentir un peu ce côté village où les gens se connaissent, se saluent, s'apprécient et avec les rencontres au fil de la visite, Charlie à la guitare. Et ça immerge vraiment les visiteurs dans ce Montmartre d'antan et qui est toujours là, en fait, qu'on continue de préserver, nous, en tant que Montmartrois.
Voilà, bah peut-être qu'on peut aller voir Charlie, alors,
oui,
puisqu'il est là. Allez, donc Charlie, avec qui vous avez chanté? Bonjour, Charlie.
Monsieur, bonjour. Bonjour.
Heureux de vous rencontrer.
Donc,
chanté. Vous êtes chanteur ici depuis longtemps, Montmartre?
Voilà, une vingtaine d'années ici. Je venais il y a plus de 50 ans quand même, je venais ici. À l'époque, je faisais des passages en guitare classique. On jouait en duo avec un ami d'enfance. Et voilà, Montmartre, rive gauche, c'était... Ouais.
Donc beaucoup de gens sont venus, des gens célèbres aussi. Est-ce que certains vous ont paru sympathiques? Est-ce que vous avez chanté ou joué avec eux?
J'ai une demoiselle qui s'appelle Anne-Sophie, hein, qui est adorable. Elle est charmante. Ouais. Elle dégage plein de soleil.
C'est vrai.
Puis elle a une voix vraiment, une voix merveilleuse.
Donc faire vivre Montmartre, c'est important pour vous deux, j'imagine?
Ah oui, c'est très important. Très important. Hein. C'est vraiment... moi, je vois le contact aux touristes. Les gens me disent tout le temps, C'est les derniers endroits où on arrive à trouver encore un petit peu. C'est vrai, parce que les gens me demandent, ils me demandent souvent où c'est qu'on peut aller après. Tu sais, quand je finis par exemple la soirée, il n'y a pas un endroit où on peut continuer. Il n'y a plus rien, malheureusement. Et heureusement qu'il reste encore un peu les chanteurs comme ça de rue.
Voilà, puis préserver aussi les légendes hein, des artistes qui sont venus ici.
Absolument, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis,
qui ont fait la notoriété de Montmartre.
De Montmartre et puis de la France. Moi, je vois très souvent des gens, mais alors qui viennent du bout du monde. Hein, je vois des Chinois, des Japonais, des machins qui viennent, qui me demandent Léo Ferré, qui me demandent de partout. Hein, tu vois, des noms comme ça, comme Brassens, comme, c'est incroyable. C'est-à-dire, donc. Ces poètes sont partis quand même, ils ont fait le tour du monde. Hein,
voilà. Transmettre un patrimoine culturel aussi. Hein.
Un patrimoine culturel, absolument. Puis la joie de vivre. Et on a besoin d'humanité, on a besoin de vraiment. C'est vrai, avec en ces temps de tension, c'est terrible. Et ça, les gens hein, le disent quand on part, on a vraiment. Ça a été un moment de liberté. Hein, c'est-à-dire on s'est libéré avec. C'est vrai, avec les tonalités, avec les moments passés, quoi. Tu vois, c'est...
Redonner du goût de vivre.
Redonner le goût de vivre, absolument, absolument.
On compte sur vous et on vous remercie beaucoup, monsieur.
Merci. On va continuer. Hein,
on va appeler votre nom
Charlie.
Et on vous retrouve où, en général, à Montmartre
À la Bonne Franquette.
Charlie est toujours devant la Bonne Franquette. Charlie Belkacem.
Voilà, donc Charlie qui fait... quand il est là, partie du parcours, donc Anne-Sophie.
Alors oui, Charlie maintenant fait partie intégrante du parcours. Et en fait, ça a commencé, je me mettais plus loin pour chanter. Et puis à un moment donné, il m'a dit, mais viens chanter à côté de moi, il n'y a pas de souci, etc. Donc après, j'ai pris l'habitude de mettre à côté de lui pour raconter mon anecdote. Et quand il m'a dit qu'en plus, il prenait des cuites avec Charles Aznavour à la Maison Rose et que c'était pile poil ce que je racontais à cet endroit, je me suis dit mais c'est parfait, c'est incroyable. Et donc du coup, je l'ai intégré dans la visite en me servant de son histoire pour que ça soit convivial, interactif. Et ensuite, j'ai chanté a cappella ma chanson et il a commencé à vouloir jouer avec moi. Donc il m'a fait quelques accords et au fur et à mesure, on a vu que ça plaisait, qu'il y avait plein de monde qui s'arrêtait autour de nous. Donc on a continué, mais je ne sais jamais quelle chanson il va me faire. C'est la surprise à chaque fois.
Voilà, c'est Montmartre en chanson en tout cas. Et donc, à la demande, vous avez un site web?
Oui, mon site internet, c'est montmartreenchanson.com. Je suis aussi sur les réseaux sociaux avec Anne-Sophie Guerrier, Insta, Facebook...
Voilà, donc c'est un projet à long terme, donc on vous retrouvera forcément. Il suffit de regarder sur le site et puis de s'inscrire.
Hein. Voilà, pour la visite de Montmartre, il y a aussi la visite sur les guinguettes en bateau sur la Marne, guinguettes en chanson avec mon accordéoniste, le spectacle au théâtre montmartreenchanson.com qui est Montmartre en chanson qui est adapté du coup de la visite. Et du coup, voilà, c'est très varié encore. Et j'espère d'autres projets encore par la suite.
Merci Anne-Sophie Guerrier.
Merci à vous. Allez ! Ah ! Qu'est-ce qu'il a ?
Sous le ciel de Paris s'envole une chose. Il est d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Le ciel de Paris marche des amours. Leur destin se construit sur un air fait pour eux. Sous le fond de l'air, si un philosophe assis, de musiciens, quelques bateaux puis des chambres. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir d'enchanté. De notre drame, parfois pour un drame, oui, mais à ta drame, tout peut s'arranger. Et que un ciel élevé, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir aux îles de Paris. ciel de Paris a son secret aux pluies. Depuis 20 siècles, il était pris de Notre-Dame de Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Et quand il est jaloux de ses millions d'amants, mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Voilà, Charlie! Allez! Voilà là! Allez, Youn! Charlie, s'il vous plaît!
Merci.
Bon, bah, à la prochaine!
Alors, bonne visite! Hein.
Merci. Alors, pour mon groupe, on continue la visite sur la droite.
Okay.